J'ai envie qu'on essaye de se dire des histoires. J'ai pas envie qu'on regarde quelqu'un qui est magnifique et puissant lorsqu'il raconte des histoires. Ah, allez voir le gars, vraiment, c'est un phénomène. Non, j'ai juste envie que... Ici, dans le village, le monde ne dise pas nécessairement le conteur ou le spectacle de conte. J'entends souvent les gens dire « va voir le gars qui jase ». Je sais jamais trop à quoi le monde s'attend quand ils s'en vont voir un spectacle de conte. Ni à quoi ils s'attendent quand ils téléchargent un balado supposé parler de conte. Mais ce que je sais, c'est que je m'appelle Patrick Dubois, je suis conteur et je m'en vais vous parler en long et en large de ce qu'a été pour moi la grande aventure d'être conteur d'histoire. Et vous écoutez « Il était une fois dans l'Est ». Dans ce cinquième épisode, je vous parle de mon répertoire d'histoire. En fait, de mes deux répertoires d'histoire. Merci d'être là, Marianne, pour écouter ce que j'ai à te conter. Merci à vous d'être entre les deux pour recevoir ce que je dis à Marianne. Dans le dernier épisode, je parlais de mes tournées de quêteux, de celles que j'ai faites en frappant aux portes en Bretagne. Et j'ai retiré plein de choses de ces aventures-là, à les compter chez les gens. Mais entre autres, une des choses que j'en ai retirées, c'est de réaliser que mon répertoire d'histoire, qui était constitué principalement d'histoires très longues, si je compare dans le milieu du conte, des histoires d'une heure, mais tout d'un coup, ça devenait tout à fait inadéquat pour ce que je voulais en faire. Quand tu te déplaces en autostop et quelqu'un dit « me raconterais-tu une histoire? » Ben, c'est sûr, ça me fait plaisir d'y offrir une histoire, il me donne un livre et tout, mais maudit, je connais juste une histoire d'une heure. On va-tu se parker, quoi? Moi te la conter, quoi. Et tout d'un coup, je réalisais que cette matière-là, ce que je vais raconter, eh bien, ne convient pas à tous les contextes. Et même dans les maisons, ça créait un peu quelque chose de... Je trouvais que d'avoir que des histoires longues, eh bien, ça me faisait prendre beaucoup trop de place dans une maison où je voulais me faire discret. Ce soir, tu m'as reçu chez vous. Bon, tu as les enfants à laver, tu as les enfants à coucher, tu as les devoirs à faire. Je ne vais pas te prendre une heure de ton temps en plus pour jouer au jeu de recevoir un quêteux, tu sais. Dans le monde idéal, je te raconterais deux, trois histoires, je prends ton pouls, t'en veux-tu d'autres, tu vas coucher les enfants, je t'en raconte d'autres. On dirait que j'avais envie d'avoir du matériel plus adéquat pour ça. Ça m'a forcé à varier. Donc, je me suis retrouvé un peu avec deux types de répertoires. Puis, pour moi, le répertoire, c'est vraiment une des particularités du métier de conteur. Un peu comme un chansonnier. Au Québec, on a de ça, un chansonnier, une chansonnière. Quelqu'un qui va être une espèce de jukebox dans un bar chansonnier, puis qui va pouvoir, sur demande, te jouer, si c'est dans son répertoire, qui va te jouer des chansons qui sont pas nécessairement de lui, et qu'on aura fait de ces chansons-là une espèce de propriété collective. Tu sais, je pense, je voyais ça cet automne avec le décès de Carl Tremblay, je me disais qu'on a tapé là-dedans avec les Cowboys. Et c'est des chansons dont tout le monde connaît les paroles. C'est pas juste des chansons avec lesquelles on est familier. Non, c'est des chansons qu'on porte. C'est des chansons qu'on a chantées autour du feu tout le long de notre adolescence. C'est des chansons qu'on a chantées dans des bars chansonniers. Tout d'un coup, c'est des chansons qui appartiennent à tout le monde, mais qui nous ont offert. Et ça, ça a une valeur. C'est un patrimoine qui est quand même particulier. Et tout d'un coup, c'est comme s'il nous donnait les mots pour nous exprimer quand il nous offre une chanson. Donc, les chansonniers portent ce genre de chansons-là, tu sais, du cœur de loup, du femme libérée, la petite grenouille, tous ces classiques-là. Moi, entre autres, bon, 7 ans, j'ai été barman dans un bar chansonnier. Alors, je m'y ai tapé moi aussi, mais je réalisais que finalement, je m'éloignais pas trop de ça en me mettant à être conteur. Je trouvais que c'était beau le fait d'être celui ou celle qui peut à tout moment te raconter une histoire ou une autre. Il n'y a pas d'importance, c'est dans mon sac et c'est ce que je viens de te partager. Je serais surpris de voir une pièce de théâtre, et c'est sûr qu'il y en a, mais où est-ce que, bon, ils vont tirer à pile ou face à voir quelle pièce de théâtre ils vous font ce soir. Tu sais, on n'est pas... C'est pas une chose qui est habituelle et je trouve que ça en fait une particularité du conte. Et puis moi, j'ai envie de mettre de l'avant les particularités du conte. Sinon, pourquoi tu viens voir du conte, quoi, si c'est quelconque? Donc, c'est pas quelconque, mais en tout cas, vous voyez, ou vous voyez pas où je veux m'en aller, puis c'est correct. C'est correct de pas se comprendre. Donc, je me suis retrouvé au fil des années, maintenant ça fait 12 ans, avec deux répertoires. J'ai clairement un répertoire d'histoires longues et c'est avec ça que j'ai débuté. Puis, ben, je vous ai déjà parlé d'une des histoires que j'ai portées. Et dans les épisodes suivants, je vais faire le tour de chacun des contes que je porte et puis de vous donner la petite histoire qui est derrière chacune de ces histoires-là. Mais moi, ces histoires-là, en fait, quand j'ai débuté à conter, bon, je voulais faire mon spectacle autour d'un feu, je voulais attirer des touristes, je voulais que ce soit quelque chose qui me permettrait de gagner ma vie. Donc, il fallait quand même que ça ait un format qui vaille quelque chose. Il fallait que je sois capable de le marchander. Si j'avais seulement raconté des histoires de 2 minutes autour du feu, en 2 minutes, moi, je chargeais quoi? 4 cents? C'est pas de ça que je vais vivre. T'sais. Donc, il fallait pour moi, c'était comme clair que ce soit une activité qui dure peut-être 1 heure pour être quand même monnayable. Alors, par nécessité, ben, je me suis mis à aménager des histoires qui prendraient 1 heure. Et c'est comme ça que j'ai appris à compter en prenant le temps. Et tout d'un coup, bon, ben, je découvrais qu'en 1 heure, j'ai le temps de jouer avec le public. En 1 heure, tu peux prendre une histoire de 5 minutes, mais la faire avec beaucoup de commentaires. Et tout d'un coup, on a du contenu. Tu peux ralentir des scènes, tu peux ajouter du détail, tu peux jouer à tout ça. Et tu as en masse de place pour rendre le conte vivant, pour en faire un geste qui sera vivant. Et ça me plaisait beaucoup. Mais de fil en aiguille, avec ce paramètre-là que je vous avais nommé au début, qui était de ne pas fixer le compte, eh bien, je me suis mis à chercher des histoires qui n'étaient pas fixées elles-mêmes. Je me suis dit, si moi j'ai envie de dire de vive voix, eh bien, pourquoi je ne serais pas cohérent? T'sais, je demande aux gens de ne pas le fixer, de ne pas l'enregistrer eux-mêmes, mais pourquoi moi je le prendrais d'une manière qui était fixée à la base? Alors pourquoi je ne chercherais pas des histoires qui me soient dites? Et ça, bon, dès le début, je travaillais un peu avec ça sans que ça soit complètement clair pour moi. Je pense que mes 2 premiers contes, je les avais trouvés de manière écrite et puis que je les avais adaptés à ma manière en ajoutant des anecdotes que j'avais entendues, en tricotant des affaires dessus. Mais déjà, je partais dans du matériel dont je n'étais pas l'auteur. Le fond, le canevas, ce n'était pas de moi. Et ça avait déjà cette existence-là, ça avait déjà cette forme-là à ce moment-là. Mais avec le temps, là, ça s'est précisé. Mais toujours est-il que je repars avec ce répertoire-là qui est rendu, je crois que je suis rendu avec 12 histoires longues. Donc, il y a 12 heures d'histoire dans ma petite mémoire. Et moi, c'est quelque chose qui me fait triper de poser ce geste-là devant le public, de dire, bon, qu'est-ce qu'on se compte à soir? Et puis de mettre la main dans le sac. Et puis, à mon spectacle estival, ben, j'ai un sac dans lequel j'ai des pierres sur lesquelles il y a un dessin pour chaque histoire. Chacune de mes 12 histoires longues sont là. J'enlève toujours l'histoire de la veille. D'un coup que des touristes étaient là hier et sont encore là ce soir. Et puis, on pige. Et tout d'un coup, je vois un bonhomme dire « Hein, il sait pas qu'est-ce qu'il nous niaise. C'est un tour de magie. Tu sais, il va tout le temps compter la même histoire puis il fait semblant de changer. » Ben, ça vient matérialiser le fait qu'on ne sait pas où on s'en va. On vient de concrétiser le fait qu'un conteur, ça peut être quelqu'un qui t'en sort une de son chapeau. Quoi. Et moi, je trouve ça génial d'aller au bout de ça. Et je suis même en train de me questionner à savoir combien d'histoires je vais pouvoir contenir. Une de mes ambitions de conteur, ce serait d'en arriver, je ne sais pas moi, à avoir 30 histoires différentes, à avoir ce pouvoir-là. Parce que pour moi, il est impressionnant, ce pouvoir-là. Et je trouve qu'il fait briller le conte. C'est une de nos capacités. Allons-y à fond là-dedans. J'ai envie de la développer, cette capacité-là. Puis ça n'enlève rien à ceux qui font une carrière sur une histoire et puis ils la font merveilleusement. Moi, j'ai envie d'être à moitié bon dans 30 histoires et ça sera ça. Mais comment tu fais pour contenir 30 histoires? Ça, je ne le sais pas. Parce que ma manière de travailler, ben, c'est que je vais entendre un truc et puis pendant tout mon hiver, ben, je me dis comment je le raconte l'été prochain. Qu'est-ce que j'y greffe? Est-ce que je colle 2 histoires ensemble? Ah oui, tu sais... Et je traduis ça dans un paysage gaspésien. Je pourrais prendre exemple, tu me racontes tes 3 petits cochons, ben tout d'un coup, c'est plus 3 petits cochons, je vais mettre 3 petits pêcheurs et c'est pas une maison qu'ils ont, mais une barque. La première est en paille, la deuxième est en bois, puis la troisième est en béton ou je sais pas quoi, tu sais. Et puis, c'est pas un loup qui souffre, mais c'est le diable qui souffre. Ou on joue avec ça et finalement, l'histoire, elle est pratiquement pas, c'est comme si j'étais pas si, tant intervenu sur l'histoire que ça. Le fond resterait le même, mais il se mettrait dans un décor beaucoup plus accessible ici, beaucoup plus réaliste. Alors, moi, je me trouve à faire cette espèce de travail-là pendant l'hiver où est-ce que je réfléchis pendant quelques semaines. Je sais pas, je suis en train de fendre du bois, puis je réfléchis à ça. Je suis en train de planter mes tomates, puis je réfléchis à ça. Je suis en train de prendre ma douche, puis je réfléchis à ça. De temps en temps, ça me pogne. Et je me dis, bon, j'attache ça puis ça ensemble, puis ça devrait prendre 5 minutes, ça un autre 15 minutes. Puis à un moment donné, je me mets vraiment sur une espèce de plan de travail, je me sors une feuille lignée sur laquelle je fais une espèce de point par point. Je vais dire, bon, trois petits cochons, mais c'est trois pêcheurs. En fait, tu sais, je vais probablement remplacer le... Je vais juste mettre le mot pêcheur, cochon, loup. Loup égale diable. Et puis, en quelle année? Des petits détails comme ça racontent, je sais pas moi, racontent l'anecdote de ça. Mais je vais juste me mettre des titres et puis des images. Finalement, j'ai vraiment pas un texte qui est détaillé. Mais je nomme un peu toutes les images par lesquelles je veux passer pour raconter cette histoire-là et ça me permet d'avoir une petite idée de combien de temps ça va me prendre à raconter. Parce que, je sais pas moi, dans l'épisode précédent, je vous racontais quand j'ai cherché une porte de salle de bain dans une maison, ben, à vue de nez, j'ai l'impression que cette anecdote-là prend peut-être 5 ou 10 minutes. Alors si je la pose sur papier puis je me dis « bon, tu mettras cette anecdote-là, bon, ben, on vient de manger à peu près un 10 minutes, j'ai l'impression, et moi je veux me rendre à une heure ». Et puis, ben, comment je fais pour mémoriser cette histoire-là? Je sais pas, j'avais pas un super truc, là, mais j'ai ma feuille de point par point et puis je la mets de côté et le lendemain, j'essaie de la reproduire sans lire la précédente. Donc, j'essaie de refaire le chemin dans ma tête, sauf que si je le mets pas sur papier, un point par point, je pars puis je me mets à penser à ma liste d'épicerie. Je suis pas tellement focus, moi, dans la vie, ce qui donne des comptes très assurés. Donc, je me refais ma liste d'épicerie et puis là, je compare mes deux listes d'épicerie et un compte de une heure tient facilement sur 20 lignes d'une feuille lignée. Alors, c'est assez vite exécuté. Et là, en comparant, eh bien, je réalise que hop, il me manquait cet élément-là et cet élément-là. Je me les encercle et puis demain, je refais la même étape et c'est certain que maintenant, je n'ai pas oublié mes trois points qui me manquaient la shot d'avant. Et ça y est, je suis prêt. Je peux partir devant le public. Et en fait, c'est que je n'ai pas un texte qui est par cœur et j'assume d'essayer de faire cette histoire-là et je trouverai les mots devant le public. Ce contact-là avec le public m'aidera à trouver les mots. En fait, il y aura une espèce de nécessité, comme d'aller dans une ville où tu n'as pas d'hébergement qui te force à aller frapper aux portes. Et bien, tout d'un coup, d'être devant un public me force à faire de quoi qui devra essayer d'être un peu intéressant. T'sais. Alors, c'est comme ça que je fonctionne pour les mémoriser. Et les contes grandissent au fil de l'été. Si dans mon sac, j'ai seulement deux histoires, eh bien, 50 % du temps, statistiquement, je vais raconter une histoire. Donc, 25 fois cet été, puis 25 fois, je vais compter l'autre histoire. Alors, l'histoire, elle va grandir rapidement. Et un des défis, c'est que maintenant, je me mets à avoir de plus en plus d'histoires, 12 histoires. Ce qui fait que ma nouvelle histoire, que j'essaie de m'approprier et que ça prend peut-être bien une trentaine de fois de la dire devant du monde avant qu'elle soit vraiment solide, que chaque scène se soit faite un peu insuffler de la vie. Puis, tu sais, les premières fois quand je la dis, bon, je sens que c'est faible un peu partout, mais il y avait un moment qui était fort. Et puis la deuxième fois que je la dis, ben là, hop, il y a deux moments qui étaient forts où on a trouvé un filon. Les réactions du monde m'ont peut-être fait réaliser qu'il aimait ça quand je jouais ce personnage-là de telle manière. Et puis, tu peux être certain qu'il va revenir de cette manière-là à tous les fois, ce personnage-là. Alors, c'est vraiment le public qui m'aide à faire cette écriture-là. Et de fil en aiguille, ben, à un moment donné, je calcule que ben, mon compte, il est, entre guillemets, 100% solide. Je suis satisfait de ça. Et puis, les années s'occuperont pour le reste. Mais au fil du temps, ben, naturellement, en ayant plus d'histoires, ils ont de moins en moins le temps de se stabiliser. Ils ont de moins en moins le temps de devenir d'une qualité que je trouve acceptable. Quoique j'accepte de présenter du stock qui n'est vraiment pas de qualité dès le début de l'été. T'sais, j'assume que moi, je suis en rodage à tout jamais et c'est ça que je vends. Et puis, en fait, j'ai envie que ça soit ça du conte. J'ai envie qu'on essaye de se dire des histoires. J'ai pas envie qu'on regarde quelqu'un qui est magnifique et puissant lorsqu'il raconte des histoires. « Ah, allez voir le gars, vraiment, c'est un phénomène. » Non, j'ai juste envie qu'il... Ici, dans le village, le monde ne dit pas nécessairement le conteur ou le spectacle de conte. J'entends souvent les gens dire « va voir le gars qui jase ». Et moi, que ça me plaît que ça reste un geste accessible comme ça, le gars qui jase. Et somme toute, il y a quand même 80 personnes par soir qui viennent voir le gars qui jase. T'sais, de ça. Mais on part de quelque chose qu'on connaît. Bref, mon répertoire, c'est un défi. Si je veux le garder croissant, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je suis en train de me questionner. Je vais peut-être enlever des histoires du début, les retirer temporairement de mon sac d'histoires. Pour permettre à des nouvelles de gagner en expérience beaucoup plus rapidement. J'ai l'impression que gérer mes Pokémon sur ma ceinture de Pokémon, pour ceux qui auront la référence. Et puis, je ressortirai l'histoire que j'avais rangée, je la ressortirai une couple de fois, peut-être une fois par été pour être sûr de ne pas l'oublier, parce que j'ai l'impression que si je ne la dis pas pendant plus qu'un an, l'histoire, En fait, j'en perds des bons bouts et je me mets à perdre des parenthèses. Et c'est peut-être une bonne chose aussi. J'ai envie de perdre des parenthèses parce que, à force, l'histoire elle devient beaucoup trop longue. À force de la dire, elle passe d'une histoire de 1 heure à une histoire d'une heure et demie parce que je me mets à avoir du fun un peu partout. Et à un moment donné, je dis « Merde, il va falloir que je coupe dans cette histoire-là. » Alors, ça ne marche plus. Donc, l'oubli s'assure de venir élaguer. Il y a des branches qui cassent naturellement et puis la lumière se remet à passer dans cette histoire-là. C'est plus aéré puis j'ai de l'espace pour pouvoir retravailler. Maintenant, j'ai aussi des histoires courtes. Bon, ça, c'est beaucoup plus des histoires que j'ai attrapées sur la route que d'autres conteurs m'ont conté. Et ça, c'est une matière que j'ai apprivoisée peut-être bien après 4 ou 5 ans à raconter. J'avais pas ça au début et je me suis bien rendu compte qu'il allait m'en falloir parce qu'entre autres, les festivals de contes au Québec... Ce qui te demande pas mal souvent, c'est genre 8 minutes. 8 minutes, je sais pas c'est quoi 8 minutes. Moi, j'ai juste compté des histoires d'une heure. T'sais. Fait que là, je m'étais mis à couper des bouts dans mes histoires pour les raconter. Raconter juste ce segment d'histoire-là en me disant, je pense qu'il y a un début, un milieu puis une fin. T'sais, je me suis mis à me faire des espèces d'extraits bizarres. Mais clairement, c'était pas une matière avec laquelle j'étais à l'aise jusqu'à ce que je découvre des contes qui me levaient le poil sur les bras sans que j'aie à y ajouter quoi que ce soit. Des histoires entendues sur la route que tout d'un coup, j'ose même pas y ajouter quoi que ce soit parce que c'était déjà pour moi une espèce de petite œuvre d'art, une espèce de petit sacré et j'ai intérêt à pas me mettre dans le chemin entre cette histoire-là puis le public. Pour moi, c'est vraiment mon rapport avec ces petites histoires-là et tout d'un coup, bon, ce répertoire-là est beaucoup plus vaste. Bon, j'ai 12 histoires longues en ce moment, mais des histoires courtes, j'en ai 25, je suis rendu peut-être à 40 histoires courtes. Et c'est comme si chacune de ces histoires-là était un nouveau mot que j'apprenais qui me rend plus apte à avoir des discussions sur n'importe quel sujet. Maintenant, il y a beaucoup plus de contexte où est-ce que « Ah, j'ai une histoire à te conter sur ce sujet-là. » Et puis, normalement, je ne suis pas le gars lourd dans toutes les soirées qui dit « Je vais vous conter une histoire. » Mais de plus en plus maintenant, dans des contextes de conte, j'ai une histoire qui correspond avec ce qui vient de se dire dans nos discussions ou... quelque chose que quelqu'un vient de nous partager qui est en train de vivre. Et des fois même, il y a des histoires que je porte sans le savoir, que j'ai entendu une fois, ça m'a fait ça l'automne passé. J'avais entendu un super conte, c'est Marc-André Fortin, lui je le nomme parce que je sais qu'il est content d'avoir de la pub, qui est conteur, qui avait raconté une histoire d'une femme qui est décédée et qui porte 2 seaux. Bon, je vous en dis pas plus. Et cette histoire-là, bon, je l'avais entendue. Marc-André n'est pas super conteur, fait que j'avais décidé de pas la garder. C'est pas vrai, maf. Mais non, Marc-André l'avait raconté, puis j'avais dit « Ah, cool histoire, mais sans plus. » Et puis, quelques semaines plus tard, je me ramasse dans un contexte où est-ce qu'il y a une jeune fille dans une école qui nous partage un espèce de moment difficile qu'elle a vécu où elle a eu un deuil qui n'était pas facile à faire. Et puis là, je réalise qu'en fait, l'histoire que Marc-André m'avait pas racontée parle de deuil et tout d'un coup, ce serait donc bien adéquat de dire ça. Cette histoire-là que j'ai encore jamais dit, que j'avais même pas marqué, que j'avais annoté dans mon cerveau. Ah ben je pense que j'ai une histoire pour toi. Et puis je raconte cette histoire-là. On est là, c'est des ados, tout le monde a 12-13 ans. On vient de se raconter des histoires de fantômes. On a ri, elles sont dures à gagner quand même comme public, là, les jeunes. Et tout le monde est un peu fier. Et tout d'un coup, je raconte quasiment sous forme de confidence. Tout le monde comprend que je suis en train de raconter à elle et non pas à tout le monde. Mais tout le monde assiste à ça et puis j'y livre cette histoire-là. Qui devient hyper chargé d'émotions. Au milieu d'une classe, il y a des posters de géographie sur les murs. Tout le monde est sur une chaise en plastique, mais quand j'ai eu terminé cette petite histoire de 3 minutes-là, je me souviens avoir entendu un jeune sur ma droite dire « Tabarnak! Tabarnak! Où est-ce qu'on vient d'aller? » Mais tout le monde a fait un « Ouf! » On vient de décoller. Et c'était pas négatif du tout, mais c'était donc ben du sérieux, quoi. Et c'est là que je m'appropriais ce conte-là tout d'un coup. Alors, en gagnant de plus en plus de contes dans mon répertoire, c'est comme si tout d'un coup, je savais de mieux en mieux m'exprimer, comme un chansonnier qui saurait de plus en plus répondre oui à toutes les demandes spéciales, finalement. Et ça, pour moi, ben, c'est une des particularités des conteurs-conteuses, et ça me plaît de la mettre de l'avant. Et sinon, tu vois, pour mes histoires courtes, une quarantaine, il me faut une liste, parce que sinon, j'oublie que je sais. Il faut absolument... Sur ma liste, j'ai c'est genre sur mon téléphone, j'ai un bloc-notes où est-ce qu'il y a 41 petits points avec un à peu près titre d'histoire. Ah, l'histoire du futon puis du poisson. Ah, l'histoire du plafond qui s'envole. Ah, l'histoire du boulanger puis du diable. Parce que sinon, dans une soirée live où est-ce que je raconte plein de petites histoires, je fais « Attends un peu, là, qu'est-ce que je vous ai pas raconté? Je me souviens pas de ce que je me souviens. » Puis sinon, ce serait toujours les mêmes histoires qui se présenterait en premier, puis je me trouverais à être un peu prisonnier de ma mémoire qui est un peu insuffisante. Mais une fois que je me donne le titre, paf, c'est correct, je suis capable de repartir. Et ça me permet de mettre de l'avant cette espèce de notion de répertoire-là. Dans ce répertoire-là, qu'est-ce que je mets? Eh bien, je mets des histoires qui m'ont touché. Des fois, Marc-André m'avait raconté cette histoire-là, elle m'avait pas marqué jusqu'à ce que je réalise qu'elle m'avait marqué. Celle-là, c'était inconsciemment. Mais d'autres fois, paf, le poil me lève sur les bras. Ou d'autres fois, je fais juste « Ah, mais donc bien drôle, cette histoire-là, elle me plaît, embarque. » Et comment je les accumule, les histoires? Eh bien, souvent, c'est dans des contextes de tournée de compte où est-ce que je suis dans le buffet, quoi, puis il y en a d'histoires. Comment je fais pour mémoriser l'histoire, souvent, c'est que je vais sortir mon petit carnet et je me note. Ah, tiens, l'histoire du rhinocéros puis des choux. Point. Et moi, c'est assez pour me souvenir que je sais et qu'il faut que pendant les 2-3 prochains jours, je la dise. Parce que si je la dis pas pendant les 2-3 prochains jours, nécessairement, elle va s'effacer pour moi. Surtout si j'en ai entendu 2 puis 3 dans la même discussion avec un autre conteur, une autre conteuse. À un moment donné, tout va se mélanger et je sais plus quel conte j'ai entendu et ça devient plus clair pour moi. Donc, il me faut absolument me les noter. Pendant 2-3 jours, je vais les raconter et puis ça suffit. Après, tant que je leur dis une fois, je sais pas moi, dans les 3 prochaines années, je pense qu'elle tient à peu près. Mais si je veux qu'elle se peaufine, si je veux avoir le pied de plus en plus certain, je sais que chaque pierre est bonne, eh bien, il faut que je la dise souvent et ça te fait un répertoire qui est complètement inégal parce que j'ai pas envie de travailler dans un studio à m'imaginer comment je devrais dire mes histoires. J'ai envie de les avoir développées à force de les frotter contre un public, finalement, de les avoir polis sur cette matière-là qui est une paire d'oreilles qui t'écoute puis qui réagit ou pas. Il y a des histoires que je change toujours la fin parce que je trouve pas encore comment la fin peut être claire, parce que je vois tout le temps le monde réagir d'une manière différente. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, puis je suis comme ah ouais, la fin est pas encore claire, la fin est... Et c'est une petite histoire de 5 minutes, mais je suis encore en train de chercher à la fin de cette histoire-là parce que de la manière qu'on me l'avait raconté, ben finalement ça marche pas, ou du moins de la manière que je m'en souviens. Tout ça, c'est assez vivant. Et il y a une histoire, entre autres, moi, je vis en Gaspésie en ce moment, et puis on a une histoire qui est assez récente. On a une histoire coloniale qui est assez récente, comme partout au Québec. Tu sais, le Québec, ça a 400 ans, mais ça, t'as peu, c'est quoi? Quelle histoire a 400 ans ici? Parce qu'il y a une histoire qui a 9000 ans aussi, une histoire qui a 10 000 ans ici, qu'on a bien aimé pas mettre dans nos livres d'histoire. Alors, ici, sur le territoire, on a des Micmacs, et puis je m'étais fait un ami Micmac, et je me disais, waouh, eux, ils ont des contes qui parlent de notre territoire, et puis c'est un imaginaire qui est fascinant, et je trouvais ça beau, moi, de me dire, hey, j'aimerais raconter des contes qui occupent ce territoire-là depuis longtemps, j'aimerais honorer cette matière-là. À un moment donné, j'ai un ami, Josh, qui me reçoit, et puis on se met à tanner des fourrures ensemble. J'ai une vie alternative ou chasse dans la vie, là. c'est un choix non éthique comme bien d'autres. Donc, on était en train de tanner des fourrures. Josh voulait me montrer comment le faire. Et comme c'est un processus qui est long et répétitif, eh bien, on se met à jaser, et puis on jase. Puis à un moment donné, bien, il me dit, là, c'était un castor. Et il me dit, sais-tu comment le castor a eu la queue plate? Et il se met à me raconter le conte qui explique l'origine de la queue plate du castor. Et pour moi, c'était un conte incroyable. Et puis l'instant d'après, il me raconte comment le raton laveur a eu ses marques et ainsi de suite, pourquoi le lièvre a des grandes oreilles. Et on passe une soirée comme ça à tanner des fourrures et à me transmettre des histoires que je trouve magiques et qui ont d'autant plus de sens pour moi parce qu'elles s'ancrent dans un territoire. Et tout d'un coup, ben, j'ai l'impression de payer mon bail, quoi, en venant témoigner des histoires qu'occupait ce lieu-là avant les Blancs, quoi. Et c'est ce que j'ai fait pendant un bout de temps. Je les ai portées, ces histoires-là. Et c'est sûr que les gens étaient contents. C'est vendeur du folklore autochtone, c'est sûr. C'est même un concept marketing très répandu pour plein de belles entreprises de blancs qui vendent des produits amérindiens, quoi. Je portais ces histoires-là jusqu'à ce qu'un beau jour... Je les ai racontés, puis il y a une femme qui s'est approchée de moi à la fin du moment compté. Elle m'a dit « Hey, il était cool tes histoires, c'est de où que tu les tiens? » Ben, j'ai dit « Ah, c'est un ami Micmac » et je me sentais légitime de les avoir portés comme ça et de les avoir reçus dans un mouvement de transmission que je jugeais tout à fait légitime. Et alors j'ai dit « Bon, c'est un ami Micmac qui me les a racontés. » Il me dit « Ah, OK, ben, je suis Micmac moi aussi et je dois te dire que ben moi, je te les ai pas donnés. » Et tout d'un coup, je mesurais la portée de ce qu'elle me disait, ou du moins de ce que je croyais comprendre, et je voyais pas comment je pouvais ne pas être d'accord avec elle. J'étais en train de partager de la matière tellement sensible qui représente sa culture et ben aussi bien Josh, lui, il peut être en paix avec tout ce qui s'est passé et où on en est en ce moment, mais je peux facilement comprendre que certaines personnes n'en sont pas encore là. Trois frères et sœurs pour avoir vécu un drame familial et il y en a un qui se met à donner des conférences là-dessus parce qu'il est en paix avec ça et ça fait du sens de se mettre à créer du positif avec ça. Et les autres pourraient demander d'arrêter de le faire parce que ça fait juste réanimer des blessures qu'ils ne sont pas prêts à revivre. Je comprends. En tout cas, je trouvais ça tellement légitime que j'ai accueilli ça sans trop savoir quoi dire et c'était peut-être la bonne chose à dire, fermer sa gueule. Et cette femme-là est repartie et ça m'a fait abandonner ces comptes-là. Mais en fait, c'est pas du tout un abandon pour moi. C'est tout d'un coup, c'était le geste le plus respectueux que je trouvais à poser. C'était de laisser partir ces histoires-là. Sachez qu'à chaque fois que je les raconte pas, c'est le plus beau geste d'amour que je peux poser pour vous. Tu sais, c'était ça que je me disais en dedans de moi. Parce que ces histoires-là, ça fait peut-être 4 ans maintenant que je les raconte plus et je les sais encore. À plein de moments, elles reviennent et j'entends une histoire qui parle d'un lapin et puis je repense à l'histoire du lièvre et je me dis, mais quelle est belle cette histoire-là. Et c'est correct que les histoires ne soient pas contées par moi. Et puis oui, c'est dommage qu'elles ne soient pas connues par tout le monde, mais il y a des choses qui appartiennent à des gens et qui seront partagées à leur manière par ces personnes-là. Et c'est ce que j'ai trouvé de plus doux à faire. Et tout d'un coup, je trouvais que ça venait nourrir mon répertoire. Ça venait pas le dégarnir, mais en fait, mon répertoire devenait un ensemble de choix. Une liste de choix que j'aurais faite. Parce que ça devenait, au lieu que ça devienne une espèce de sac dans lequel j'ai foutu tout ce sur quoi j'ai réussi à mettre la main, eh bien, tout d'un coup, ça devient quelque chose de choisi, quelque chose d'épuré, que je soigne, que je prends le temps de revisiter, puis d'ajouter, puis d'exclure certaines choses des fois. Alors, c'est comme ça que... ben que les histoires Micmac sont parties de mon répertoire, malgré qu'elles m'habitent encore, ces histoires-là. Et puis tu sais, c'est pas dit que si un jour un Micmac me disait « Me raconterais-tu nos histoires? » Eh bien, one-on-one, sûrement que je serais donc bien content d'y offrir. Mais voilà, celle-là, je les laisse partir. Sinon, tu sais, il y a une autre histoire que j'ai laissée, en fait, deux autres histoires que j'ai laissées partir qui sont dans mes contes longs. C'était une troupe de théâtre qui me demandait des comptes. Ils voulaient recevoir des comptes d'une manière traditionnelle, d'un geste de transmission qui le soit dit. Ils voulaient un conte qui le soit dit pour faire un balado où est-ce qu'ils raconteraient des histoires à des enfants. Et puis, ils avaient envie d'être proche de la tradition orale. Et puis, c'est un ami, David Bouchard, qui travaillait sur cette compagnie-là, qui me dit « Ah ben Pat, on sait que tu portes des comptes comme ça. Est-ce que tu nous en offrirais un? » Et j'étais drôlement embêté parce que je me disais « Oui, je peux voir que vous voulez partager avec un plus grand public puis que ça sera ça votre support quoi, pour diffuser une histoire, mais en même temps, moi, si je vous la raconte, elle meurt. » Et puis, je me suis dit « Ben tiens, pourquoi pas? C'est peut-être le temps d'en laisser partir. » Fait que je les ai résumé un peu toutes mes histoires en me disant « Choisissez-en une. » Sans leur dire que j'allais l'éliminer. Et puis finalement, ils m'en ont pris une et je les ai dit, ben parfait, je vous la raconte. Et ça a été un drôle de moment, c'était par Zoom parce qu'eux sont à Montréal. Alors on s'est fait un Zoom, mais j'ai posé mes conditions qui étaient entre autres, vous n'enregistrez pas cette transmission-là. Donc, vous allez m'écouter mon Zoom, vous pouvez prendre des notes, mais seulement après. Sur le coup, je veux juste des gens qui écoutent et puis je veux que ça soit stocké au moins pendant une fraction de seconde dans votre mémoire. Puis quand le Zoom terminera, faites ce que vous voulez, enregistrez-vous audio, prenez 100 notes, discutez-en entre vous. Mais si vous voulez un vrai geste de transmission, ben pour moi, il passe par une espèce de stockage qui est dans la mémoire et puis vous allez oublier du stock nécessairement. Et ça me va donc bien. T'sais. Alors, c'est comme ça que j'ai arrêté de... C'était un conte... En fait, c'était un conte qui en était deux. Donc, j'ai perdu 2 ans de compte avec cette histoire-là je ne sais pas si je peux mettre le lien quelque part. Là. Ils en ont fait un conte qui s'appelle Grisbette. C'est l'histoire d'une poule qui pondait des œufs en or, quoi. Que je ne raconte plus maintenant. C'est plus mon conte. Parce que pour moi, ben, ça donne du sens d'arrêter de la raconter. Et je trouve ça beau. J'ai envie que ce soit ça, mon métier, de faire apparaître du sens. Et c'est la manière la plus pertinente que j'ai trouvée. Alors, entre mes deux répertoires, mon court et mon long, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux dynamiques complètement différentes. Mes comptes courts, par exemple, sont beaucoup plus proches d'une espèce d'intention de transmission. J'essaie de te donner une munition pour que tu aies quelque chose à raconter toi aussi, tu sais. Alors que les comptes longs sont plus pour te donner envie de poser le geste, d'écouter du compte, de voir ce que ça peut représenter, le geste de compter. Et puis, entre les comptes longs puis les comptes courts, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est irréconciliable. Est-ce que je me sers du compte ou est-ce que le compte me sert? Non, je viens de dire la même chose. Est-ce que je sers le compte ou je me sers du compte? Tu sais, on dit que c'est des vieux comptes millénaires et puis je ne sais pas s'ils sont millénaires, mais ils ont, en tout cas, ils ont au moins un an derrière la cravate, je ne sais pas. Et c'est des comptes qui me sont donnés. Est-ce que je leur donne de la vie en les portant un peu plus loin à ma manière puis en les partageant à un maximum de gens? Est-ce que je permets à ces comptes-là de faire de l'intérêt finalement à force d'être partagés? Et ma seule réponse pour l'instant par rapport à ce doute-là et puis c'est plus une préoccupation pour moi. Eh bien, ma seule réponse face à ça, c'est qu'au moins, ben, avec mes comptes longs, j'arrive à gagner ma vie suffisamment pour aller porter les comptes courts dans des maisons. Alors, ce moment-là où je travaille, où je marchandise le compte et puis le geste de compter en faisant du compte long, ça, j'arrive beaucoup plus à le marchander. Alors, ça me permet d'aller porter, par exemple, dans mes tournées de quêteux, du compte court et espérer que ces petites histoires-là s'accrochent sur le territoire où je les dépose. Vous écoutiez « Il était une fois dans l'Est », une production de La Petite Grève. Le titre original est de Alexandre Gauthier, la musique originale de Guillaume Arsenault. À la co-animation, Marianne Boudreau, au montage, Thomas Wadam Gagnon, et à tout le reste, moi-même, Patrick Dubois. Cette production a été financée par La Petite Grève, ainsi que la MRC Avignon et Boralex.